Grand format
SPA SOS Animaux.
Nous sommes là depuis un peu plus de 30 ans maintenant, et c'est un terrain de 1 hectare 2, 1 hectare 3 je crois. Au départ, on n'avait donc que ce que nous avons ici, ce que j'appelle le dur, c'est-à-dire les maisons qui ont été construites. Mais à fur et à mesure, avec l'augmentation des animaux qui sont abandonnés, nous avons été obligés de rajouter des structures en bois pour agrandir les possibilités d'accueil. Le terrain appartient à la ville de Strasbourg et nous payons un tout petit montant forfaitaire sur l'année. Par contre, toutes les installations sont à nous. Mais sachant que le jour où on va être délocalisé, on n'aura rien pour les installations qui sont là. On pourra emmener certaines choses certainement, mais le dur il reste, et c'est clair, hein, ça fait partie des lois. Tout ce qui est sur place, ça reste acquis à la personne qui est détenteur du terrain.
Il me manque, hein.
Bah, je prends la nouvelle, hein, puisque la vieille elle est occupée, la blanche elle sort.
La vieille est occupée.
Bah, il y a tous les trucs dedans, il pouvait pas aller derrière.
Ah oui.
Hein, je prends la nouvelle.
Oui, là, j'espère que personne ne vous écoute. Oui. D'accord. Ok, parfait. Ok, ma collègue est partie là. Ok, merci. Au revoir.
Il y a deux structures. Il y a la SPA de Paris, qui a à peu près, je ne sais pas exactement combien de SPA qui sont disséminés sur la France, et rattachée à elle, c'est-à-dire c'est elle qui gère. Je pense qu'elle place dans chaque SPA un directeur. Alors que nous, SPA de Strasbourg, et beaucoup d'autres, hein, dans les 250 je crois à peu près, nous dépendons, pour des problèmes juridiques ou pour des problèmes de legs, etc., tout ça, de la SPA de Lyon. Et par contre, nous, SPA, nous avons tous une gestion autonome. Nous n'avons pas à remonter l'information à Lyon pour leur dire, écoutez, comment est-ce que l'on va faire, etc., tout ça. Non, le financement, c'est nous. La gestion, c'est nous. Et ce n'est que quand on peut avoir un problème juridique et surtout, quand il y a des choses qui se passent à Paris au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est SPA de Lyon qui nous répercute les informations, sachant que nous avons quand même eu là récemment les problèmes avec les chiens de première et deuxième catégorie. Donc il y a des nouvelles lois qui ont été mises en place. Et donc c'est par l'intermédiaire de Lyon que nous avons au fur et à mesure les renseignements.
Chaque jour apporte son lot de surprises. Quand on arrive le matin, on ne sait pas à quelle heure on va partir le soir. Hein. Quand le téléphone sonne, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, si c'est un renseignement, si c'est pour un abandon, si c'est pour une maltraitance. Donc là, chaque fois que le téléphone sonne, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui va nous arriver. Ça peut être la police qui nous appelle pour des chiens errants qu'il faut aller chercher. Ça peut être une expulsion avec 10 chiens ou 20 chats. C'est vraiment la surprise à chaque fois. Hein. Et puis bon, c'est pareil, le matin, on établit un programme. On se dit aujourd'hui, on va... J'ai les chiens à nourrir, les médicaments à faire, et puis on arrive à 8h et pouf, le programme est tout chamboulé, quoi. Ça, c'est clair.
En 2008, une journée de fonctionnement, tout compris, naturellement, c'est-à-dire les animaux, les salaires, l'électricité, le chauffage, les voitures, etc., les assurances, etc., tout compris, c'est à peu près dans les 1900 euros par jour. Vous multipliez ce chiffre par 365 et vous avez à peu près le chiffre annuel. Et après, il y a quand même encore la subvention de la ville de Strasbourg. On a également recours au Conseil général qui nous aide à raison de 60% sur des travaux qui ont été effectués au courant de l'année au refuge. Cette année, sans les legs, on aurait été déficitaire de 60 000 euros. What?
ma mère était membre de la SPA. Et dès petite, j'ai vu venir, par exemple, des dames qui venaient pour la cotisation annuelle. Et j'ai grandi avec ça. J'ai toujours entendu parler de la SPA. Et je suis allée à la SPA avec des amis pour aider, pour faire ceci, pour faire cela. Et puis, petit à petit, j'étais associée un peu davantage.
Je m'appelle André. Je suis né à Wolvisheim il y a 76 ans. La SPA, je vous dis, je la connais depuis une quinzaine d'années, je suis membre. Et puis de toute façon, tous les mois, je fais un tour, je leur fais tous les mois un don, et je fais le tour de la chatterie. Je vais aussi chez les chiens, notamment, mais ils me font pitié parce qu'ils aboient tout le temps. Quand on passe, fait le tour chez eux, ils aboient, alors ça, j'aime pas. Un animal en détresse. Alors je fais le tour de la chatterie, je discute avec les gens là-bas que je connais donc depuis 15 ans, pour leur donner, bon, je vous dis franchement, 50 euros tous les mois. Maintenant, depuis le mois dernier, j'ai augmenté à 60, parce que la vie est devenue plus chère aussi, donc tous les mois je passe.
D'abord, je connais tout le monde maintenant, vous venez de parler de notre président, de M. Guépard, mais je connais tous les autres aussi depuis des années. Et quand il y a quelque chose, soit par exemple pour la journée des portes ouvertes, je m'occupe du stand de la pâtisserie. J'ai cherché pendant très très longtemps ce que je pourrais faire pour contribuer à ces portes ouvertes, aux ventes, etc., pour faire entrer un peu d'argent. Parce que vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre, partout, dans tous les domaines. Mais pour la SPA surtout, qui en a beaucoup besoin et qui ne reçoit pas tellement d'argent. J'avais d'abord commencé par vendre des petits objets. On était allé acheter à des centaines de kilomètres dans une usine au prix de gros des petites choses. Mais je me suis rendu compte que c'était très très difficile de vendre tous ces petits objets, même si c'était pas cher. Donc j'ai cherché autre chose et j'ai trouvé les gâteaux. J'ai un excellent pâtissier qui est la pâtisserie Patrick, qui est une des grandes pâtisseries de Strasbourg. J'ai parlé avec Patrick et Patrick était d'accord. J'achète les gâteaux là-bas, des millefeuilles, des religieuses, des éclairs, etc. Il me fait 30%. Donc à la SPA, surtout maintenant après des années, tout le monde sait qu'il y a des pâtisseries de Patrick, tout le monde aime ces pâtisseries qui sont délicieuses et les gens viennent pour ceci. Alors soit ils les consomment sur place, soit ils les emmènent à la maison dans des jolis petits cartons que Patrick met également à ma disposition.
Alors là, ça c'est Roméo. Donc il a 8 ans, il a été abandonné parce que les gens ont peut-être peur qu'un jour, on ne sait jamais, il pourrait peut-être mordre.
Ah, c'est un staff, c'est un Staffordshire.
Donc c'est un très gentil chien, on le connaît depuis longtemps, mais le propriétaire, il a un enfant, puis en plus je crois qu'il n'a pas de travail, donc après il y a des situations difficiles aussi, mais... Les chiens vont peut-être plus se manifester que les chats. Ça, c'est une grande différence. Le chien va être dans un coin, il va trembler, il va avoir peur. Le chat, il va plus rester au fond de la cage, mais il va moins montrer... La détresse va pas être montrée de la même manière. Il va peut-être plus facilement avoir envie de griffer ou cracher.
Vous savez, un chat est indépendant, de toute façon. Soit qu'on peut le caresser, ou le porter, ou non. Ou il va mourir, il va griffer. J'en ai un ici que j'ai ramené de Furtenheim. Parce que je sais, ce paysan, il y en avait 7. On en a fait stériliser 5 et castrer 2.
Le chat, c'est un animal territorial. Le chien, c'est un animal de meute. Donc au bout d'un moment, le chien va quand même essayer de chercher le contact, sauf des cas précis, mais c'est pas du tout pareil, en fait.
J'étais à la recherche d'un chien depuis longtemps. Donc on est venu à la SPA et on a trouvé ce petit chien-là. C'est un croisement boxer et je sais plus... Labrador, je crois. Voilà. Et on a craqué dessus et puis on le prend, on l'adopte. Une école de chien à faire pendant 2 mois pour la sociabilité du chien. Et après, normalement, tout se passe bien. Il faut l'éduquer dès maintenant, sinon après, c'est foutu. Quoi. Ce sera lui le maître et puis maintenant, voilà, il verra la différence. J'avais déjà eu des chiens de race gros, Rottweiler. Donc j'ai déjà fait une école de chien pour ce genre de chien. Donc là, on va faire la même chose pour ce croisement. Et je pense que ça ira. C'est une habitude à prendre, les heures de sortie, l'habituer. Et après, le reste, ça fait tout automatique. C'est comme un enfant, je pense. Pour moi, c'est comme un enfant.
Et souvent, vous voyez des gens qui viennent là parce qu'il y a ceci ou cela et on ne leur confie pas d'animal. Et quelquefois, il m'arrive de parler avec des gens et j'appelle quand même leur attention sur le fait qu'avoir un chien, c'est formidable. Moi, j'adore mon chien que j'ai depuis 13 ans et un tout petit peu plus. Mais ça fait 13 ans, 3 promenades par jour, 2, c'est sûr, et au moins d'une heure chacune. Et ensuite, par tous les temps, quand il pleut, quand il gèle, quand il fait mauvais, quand il y a de la boue, quand vous n'en avez pas envie, quand vous avez autre chose à faire, eh bien, vous vous prenez par la peau du cou, eh bien, vous allez balader votre chien. Et finalement, ça devient un besoin. Vous aimez le faire. Mais il faut que les gens soient conscients de ce fait-là, parce que beaucoup ne se rendent pas compte de ce que ça signifie.
Au point de vue effectif, nous avons donc 5 contrats à durée indéterminée, une dizaine de contrats aidés, hein, les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les contrats d'avenir, qui ce sont des contrats sur 2 ans.
Je nettoie les cages des chats et je fais les captures aussi. Et chercher un chien qui est peut-être abandonné. Il est abandonné.
Non, trouvé.
Trouvé. Je vais là-bas, sur le lieu où le chien est trouvé. Je regarde s'il a une puce ou un tatouage. Et ben voilà. Et puis je le ramène ici. Pour trouver son propriétaire, s'il en a un, et s'il n'en a pas, ben, on le laisse ici pour l'adopter. Moi, j'adore les animaux.
Il y a ceux qui sont en appartement et qui travaillent toute la journée, donc qui savent. Il y a ceux qui, de tradition familiale, ont toujours eu des chats ou toujours eu des chiens. Après, puis après, il y a les affinités qui sont, on est plus chat ou plus chien. Mais alors, pourquoi ? On peut être les deux, hein. Il y a des gens qui sont les deux. Mais c'est vrai que chez nous, les bénévoles, il y a les bénévoles chats et les bénévoles chiens. On a, bon, ils ne pourraient pas faire les deux, je veux dire, un bénévole ne pourrait pas aller chez les chats et chez les chiens. Mais on a un tempérament, bien qu'on ait des bénévoles qui aient des chiens à la maison, mais ils vont venir ici s'occuper des chats plutôt que des chiens. Je crois qu'on a des tempéraments plus chats ou plus chiens. Ça peut être quelqu'un qui aime bien les chiens, mais qui ne peut pas forcément en prendre. Ça peut être quelqu'un qui a lui-même un chien et qui justement veut faire plus encore que juste simplement s'occuper de son chien, mais donner de son temps. En général, les bénévoles, c'est des personnes qui sont quand même tournées vers les autres, hein, qui ont dans la notion d'aider son prochain, que ce soit un chien, un chat, voire même des gens, hein, parce que c'est pas des gens qui vont être indifférents aux problèmes des êtres humains, s'occuper que des animaux. En général, ça va de pair, hein, on a une sensibilité vers l'autre qui est différente chez les gens, qui fait qu'on a des bénévoles. On vient aussi, ça nous fait du bien de donner, ça nous fait du bien de recevoir aussi. Mais au départ, c'est pas, on ne dit pas, je vais à la SPA parce que je m'ennuie dans ma vie, parce que j'ai un manque. Non, on vient parce qu'on a envie de donner et qu'on sait qu'on va. Au départ, je ne pense pas que les bénévoles se rendent compte de tout ce qu'ils vont recevoir.
Heureusement qu'il y a des bénévoles qui, le dimanche et les jours fériés, et une équipe qui est là le matin déjà à 7h pour nettoyer, pour nourrir, etc., tout ça. Et puis, au niveau des chiens, il y a une équipe qui ne vient que vers les 9h, 10h pour promener les chiens. Je dirais qu'on a au moins 60, 70 bénévoles, hein, qui viennent nous aider, hein. Heureusement pour les animaux, parce qu'il faut savoir aussi que les gens qui viennent, par exemple, le premier de l'an, qui sont là à 7h, hein, c'est quand même très bien, hein, c'est fantastique, hein, pour nettoyer, pour ensuite promener, etc., pour nourrir aussi. Ce qui fait aussi que les bénévoles, on n'a pas besoin de les payer. Si je devais faire venir un employé, ce serait au tarif du dimanche, je pense. Et je ne suis même pas sûr qu'il voudrait venir. Hein.
Vous avez des jeunes, des étudiants, des retraités, vous avez tout le monde. Hein. Ça peut être monsieur tout le monde. Hein. Il n'y a pas de profil particulier, il n'y a pas de type, de catégorie d'âge, on a de tout. Hein. Mais on dit oui pour toutes les gens qui viennent comme bénévoles. Après, il y en a qui vont rester, il y en a qui ne vont pas rester. Les hasards de la vie, les changements professionnels, ou simplement... Mais ça, c'est rare, il y en a qui trouvent que c'est trop dur, mais en principe, quelqu'un dit je veux être bénévole, bon, il n'y a pas de problème. Hein. Mais déjà, les chiens chez nous, ils disent rien. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Mais d'habitude, ils aboient parce que c'est le jour des promenades. Donc, il y en a qui ont déjà été promenés. Il y en a qui, ils attendent, en fait. Là, ils se disent que si on passe, c'est qu'on va les promener. Donc, ils attendent. Et parce que peut-être aussi, ils me connaissent, je suppose. Donc, ils aboient moins. Chut. Ils aboient pas forcément de manière méchante. Les gens disent, ah, mais les grands chiens aboient. Bah, ils parlent. Alors c'est sûr, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il va avoir peur du chien. Mais là, elle me parle juste en fait. Donc, elle ne va pas forcément me mordre.
Je m'appelle Virginie, je suis éducatrice de jeunes enfants, j'ai 45 ans, j'ai une fille de 18 ans, et puis j'ai toujours baigné en fait dans le milieu animal, puisque ma mère était déjà trésorière de la SPA il y a 30 ans. Naturellement, bah, j'en suis venue, une fois que j'étais adulte, hein, à me poser la question, qu'est-ce que je peux faire de mon temps libre et faire un petit peu quelque chose de correct sur la planète, hein, pour combler le manque de certaines personnes, quoi, hein, puisque beaucoup de gens ne prennent pas leurs responsabilités. Et donc, ayant un petit peu de temps libre et pouvant encore être valide correctement, bah, j'ai décidé de promener les chiens.
Il y a des bénévoles qui vont être plus chiens ou plus chats, parce qu'eux-mêmes ont chez eux un chien ou un chat, donc ils ont une... s'ils connaissent un peu plus en chien ou en chat. Il y a des horaires pour les promenades, il y a des horaires pour nettoyer, il y a des horaires pour... Après, ils choisissent. On a des bénévoles qui ne viennent jamais sur site, mais qui, de chez eux, vont fabriquer des choses pour qu'on revende aux portes ouvertes. Il y a des bénévoles qui vont faire des contrôles suite à adoption, donc qui ne viennent pas au refuge, mais qui nous aident à faire le suivi des animaux qu'on place. Donc, voilà, il n'y a pas de degré, le bénévole... Non, il y a les bénévoles, sont tous à la même enseigne. Après, au fur et à mesure, il y a... Ils vont faire plus ou moins de choses selon leur tempérament, leur envie, leur connaissance aussi. Hein. On a des gens qui ne font que du bricolage, on a un peu de tout. Hein. Et en général, on vient, on met le petit doigt et puis bon, après, on est coincé, quoi. Ça ne se lâche pas comme ça, la SPA.
T-Rex, c'est un chien qui est ici chez nous en pension régulièrement depuis plusieurs années parce que le maître est très malade psychologiquement, et donc il fait régulièrement des séjours à l'hôpital psy. Vous pensez qu'il est heureux? Moi, j'en suis pas si sûre, parce que bon, il est quand même assez nerveux. Quand on passe devant le box, il montre quand même des signes d'angoisse. Hein. Maintenant, c'est sûr qu'en balade, ça va mieux. Mais quand on le remet en box, il est pas content du tout, quoi. Et puis ça se voit, parce qu'il gratte, il veut pas qu'on lui enlève la laisse, il se manifeste comme il peut, quoi. Donc heureux, non, je dirais pas heureux. Je dirais... On essaye de faire au mieux pour que leurs conditions de détention, parce que c'est quand même une détention, soient au mieux. Donc, et quand on connaît un petit peu les différents refuges de France, et j'en connais beaucoup parce que je fais partie de plusieurs associations, c'est catastrophique par rapport à ce que nous, on peut vivre ici à Strasbourg. Pour moi, Strasbourg, c'est un refuge grand luxe. Hein. C'est-à-dire chauffage, ça veut dire eau courante, couverture, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de refuges, où il n'y a même pas de couverture. Elles sont quand même changées tous les jours. Ça veut dire quand même pas mal de bénévoles, des salariés qui sont quand même assez présents.
Nous, ici, on a surtout les chiens et les chats. Donc, les chiens, on en a à peu près 70, 80. Et les chats, alors là, ça, c'est fluctuant. Hein. Il y a des périodes où il y en a moins. Hein, il y en a 60, 70. Et il y a des au courant de l'année, surtout quand c'est la période des chatons, on monte jusqu'à 200 chats.
Je suis venue voir s'il y avait des petits chats. En fait, je suis à la recherche d'un petit chat. Bon, c'est vrai que j'ai dans la tête quelque chose d'assez précis. J'aimerais bien un petit tigré, et donc je suis venue voir. Et là, c'est vrai que contre toute attente, j'aime bien celui-là qui ne correspond pas du tout à mes... Enfin, aux critères que j'avais au début.
Ça a plus tardé, là. Hein.
Ah, d'accord.
Oh, oui, ça commence à...
Bah, je repasserai...
Voilà. Voilà, mais téléphonez de temps en temps et puis vous demandez à Madame Haute. Mmh. Comme ça, elle vous dira si on a des chatons de lit disponibles.
D'accord. Voilà. Il faut que j'appelle.
Voilà. Vous appelez le refuge et puis vous diront s'il y en a des disponibles.
D'accord.
Bah, là, de toute façon, ça va plus tarder hein, parce que là, ça commence à être bas.
Oui, bien sûr.
Donc, normalement, vers fin mai, juin, il y en aura.
D'accord. D'accord. Bah, je repasse.
C'est vrai qu'il est gentil.
Ah, non, date d'entrée.
Ouais, ça, c'est pas les plus anciens.
Non, vous les amenez, je ne sais pas où vous les amenez, les chats.
Ça dépend, vous avez ce qu'on appelle des abandonnés.
Ah, oui. Vous les amenez quand même,
c'est
quand
même. Bien que les déposent chez nous. Ou alors vous avez les trouvés, ah,
oui.
Ou ce qu'on dit, les soins des introuvés.
Ouais, d'accord.
Malheureusement, vous avez des gens qui disent qu'ils les ont trouvés alors que c'est les leurs.
Surtout pendant la période des vacances.
Voilà.
Je ne prends pas de décision aujourd'hui. Je vais encore réfléchir. Je vais voir si dans les prochains temps, il y a des petits qui vont arriver parce que je préférerais quand même avoir un petit. Donc, je vais réfléchir encore. Quoi.
Voilà, on est dans la chatterie. On a 10 grandes cages quand même avec un petit accès extérieur avec une petite cour où il y a du soleil l'après-midi. C'est bien agréable. Mais là, nous ne mettons que les animaux qui sont déjà vaccinés, tatoués, stérilisés, qui sont vraiment prêts à l'adoption. Hein. Les chats qui arrivent sont d'abord mis dans des cages, bon, malheureusement pour des raisons de place beaucoup plus petites, en attendant d'être vus par le vétérinaire, vaccinés, tatoués, castrés, ils sont en isolation, quoi. Ils peuvent être porteurs de maladies éventuellement. Et là sont mis les chats qui sont proposés à l'adoption.
On aimerait bien adopter un petit chat.
Bah, on avait un chat pendant 16 ans, il est mort au mois de février, donc on aimerait bien en adopter un.
Bon, ils ont déjà 5-6 ans ici, donc je ne sais pas s'ils s'adaptent facilement à un foyer, j'en sais rien.
Ah bah, c'est pour ça que je veux, moi, bien sûr. Plutôt que de prendre un chat dans un élevage. Là.
Mais je dis, avant de prendre une telle décision, il faut quand même réfléchir. Parce que si on prend un animal, c'est pour le rendre heureux.
C'est lequel qu'il a depuis 10 ans ?
C'est pas pour... J'en ai repéré un chien qui m'a l'air sympa, blanc et noir. Là, donc, un qui me... bah, il est là, voilà. Je crois que c'est
Voilà.
Elle
a pas l'air très commune. Hein. Si déjà vous avez eu un chat qui avait du caractère, vous n'allez pas vouloir avoir un chat qui ne bouge pas, qui est là toute la journée.
Mais bon, qu'il soit aussi féroce que le nôtre non plus. Non, elle nous a conseillé, il y a des chats qui sont câlins là-dedans.
Ah ouais.
Vous savez, les empaillés, c'est quand même des gens qui ont une expérience. Hein. Et quand effectivement... il peut y avoir un souci, on leur explique, c'est peut-être l'employé qui, à ce moment-là, va prendre l'animal dans ses bras, va le sortir pour que la dame puisse lui expliquer, etc., que c'est un animal qui est un tout petit peu peureux, il lui faut pas mal de caresses, etc., jusqu'à ce qu'il reprenne confiance. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un stress hein, qu'ils ont vécu, les animaux, hein, quand ils ont été abandonnés, hein, ou quand ils ont été largués dans la rue ou autre. Hein. C'est clair qu'il y a des animaux qui peuvent être stressés. Et qui ne vont peut-être pas forcément tout de suite refaire confiance à l'homme, voilà. Je peux le comprendre. Alors nous, on essaye au maximum, justement, de les aider, les animaux, pour qu'ils reprennent confiance. Et c'est pas toujours évident. Hein.
Eux ne confieront jamais un animal à quelqu'un dont ils pensent que l'animal ne serait pas bien. Et il est beaucoup mieux à la SPA. Il est évident que si vous trouvez une famille idéale, l'animal ne peut pas être mieux. Mais je vous assure que 99% des chiens et des chats qui sont là-bas sont mieux à la SPA que dans leur vie antérieure. Parce qu'ils sont nourris tous les jours, il y a des bénévoles qui baladent les chiens, les vétérinaires les soignent. Et en hiver, ils sont au chaud, ils peuvent se balader, ils sont vraiment bien. Regardez combien d'animaux, par exemple, à la campagne, combien de chiens sont attachés à des cordes ou à des chaînes, ne sont jamais promenés, ne mangent pas tous les jours comme ils mangent à la SPA. Il est évidemment important de leur trouver des bonnes familles.
Ah, on a du boulot hein, à la SPA. Hein. Il n'y a pas que le nettoyage et le nourrissage. Hein. Il y a aussi le fait de s'occuper des animaux, et le suivi, etc. Tout ça. Hein. Je dirais, on est des spécialistes quand même.
SPA, bonjour.
Tout à fait.
Aurélie.
Oui. Vous avez vu un tatouage, ok. Bon, le problème ne change pas, on vient chercher le chien puisque nous n'avons pas accès à la Société Centrale Canine. Ben, le système est en panne depuis hier, donc ça n'a pas été réparé. Donc on va venir chercher le chien quand même. Donnez-moi le numéro quand même. Oui. Ok, d'accord. Ok, ben, elle est partie, hein. Elle arrive. Merci, au revoir.
L'histoire, ce matin, j'ai promené mon chien à 10h et elle a fugué. Elle a fugué depuis, je ne l'ai pas retrouvé. Ça fait depuis 10h du matin jusqu'à midi, on a cherché. Alors, on a attendu l'ouverture de la SPA. Puis, vous n'êtes pas de permanence le...
Bien sûr.
Je ne sais pas, on m'a envoyé le téléphone, on m'a dit non, on m'a envoyé ici directement.
Un jeune homme qui l'a trouvé, on est allé le chercher.
Un jeune homme qui l'a trouvé.
Bien sûr qu'il y a
de permanence. Elle est là, c'est bon.
Ouais, ma petite fille. Ouais, c'est ma chipie,
tiens.
Je peux avoir exactement la date de naissance de Tuco. Le 17 mars, quelque chose.
Je ne sais pas si on avait ce système-là quand vous l'avez pris.
Je ne me souviens pas vraiment. Je pense qu'il a 12 ans, mais je ne suis pas sûr à 100%.
Vous n'avez pas le carnet de santé ?
Si, mais voilà, c'est un point d'interrogation de la date. J'ai bien Tuco sur moi. Je crois que j'ai pas
vous l'avez toujours ?
Oui, oui, toujours là. Il est dans la voiture.
Alors, il est né en 97, donc il a 12 ans. 1er octobre 97.
1er octobre.
Ouais. Donc, il y a les frais de déplacement, je suis désolée.
Oui, je vois.
Il y a 16 euros. Et ça, c'est le métropolitain.
Ouais. En fait, si maintenant quelqu'un aurait pris la chienne et serait allé chez le vétérinaire avec la une puce.
Ouais.
Et si maintenant, imaginons, c'est quelqu'un de mal intentionné qui dit c'est un changement de propriétaire, juste. Le veto appellera d'abord quand même
le veto fait la recherche avant.
Ouais, d'accord.
Il faut savoir que depuis le 1er janvier, on a une obligation d'avoir le passeport. Donc, comme dans le passeport, on est obligé de mettre la date d'implantation de la puce. Donc, si la personne n'a pas de carte, il va faire la recherche et va voir que ce n'est pas le bon propriétaire. Donc là, il va déjà prendre contact avec nous. Hein. Donc, il y a quand même la sécurité à ce niveau-là. Maintenant, vous pouvez toujours trouver des gens mal intentionnés et des vétérinaires.
Et qui vont pas chez le vétérinaire.
Voilà.
Toutes les deux minutes, il y a le téléphone qui sonne. Et on a trois postes rentrants. On peut décrocher en même temps. C'est infernal. C'est infernal. Les gens ne se rendent pas compte. Alors, quelquefois, on ne répond pas tout de suite. Les gens ils disent, ouais, vous laissez sonner, etc. Non, il faut savoir que... Il faut quand même répondre, hein. Quelquefois, ça prend plus de temps, etc. Et puis, bon... Non, non, mais c'est... Vous voyez bien, là. Vous entendez vous-même, hein, là. Bon, et encore, là, c'est même pas tellement parlant, là. Mais quelquefois, quand je suis à la réception, quand je donne un coup de main, je fais pratiquement que ça. Hein. Je ne fais que décrocher. Alors, on nous signale la perte, on nous signale qu'on a trouvé, ils veulent des renseignements, plein de choses.
Quand les gens viennent pour avoir un animal pour l'enfant, on leur demande de bien réfléchir parce que ce n'est pas l'enfant qui va s'en occuper. Après, c'est une histoire de quelques jours, de quelques semaines ou quelques mois même. Et après, ils nous abandonnent. On a eu un chat mardi parce qu'il avait pris le chat pour les enfants, mais les enfants ne s'en occupent plus. Donc, il abandonne le chat. Alors, quand on explique aux gens, ben, quand on prend un animal, ce n'est pas pour les enfants parce que nous, on en a envie. Et les enfants vont s'en occuper, mais allez, c'est pas une charge qu'un enfant va prendre en compte. Et puis avec l'éducation, et puis même l'enfant va grandir, il va partir faire ses études, etc. Et le chat sera toujours là, normalement, ou le chien.
On a une partie des abandons, oui, où les gens ont pris le chien ou le chat pour les enfants. Ben, dernièrement, là, on a rentré un chat. Monsieur l'a pris pour les enfants, et les enfants s'en occupent pas, et donc lui, il n'en veut plus. Voilà, je vous le ramène. Tout simplement. Mais une fois qu'ils sont là, de toute façon, je vous ramène le chien ou je vous ramène un chien. C'est déjà plus leur chien. Quand ils arrivent avec le chien dans le refuge, c'est je vous ramène ce chien ou un chien. C'est pas mon chien ou mon chat, c'est je vous ramène un chat ou un chien. Ils s'en sont déjà, pour eux, c'est déjà fait. Pour eux, c'est déjà plus à eux. Ils s'en sont déjà débarrassés. Quitte après à reprendre un autre le jour où ils auront de nouveau envie. Et après, le ramener en disant ce chien ou ce chien. On a des gens qui nous ont ramené déjà deux, trois animaux, oui, aussi.
Souvent, c'est des abandons. Quand on leur demande de nous expliquer les raisons, c'est pas toujours très net et très clair. Hein. Ils nous avancent des excuses qui ne sont peut-être pas toujours fondées. Ou alors, ils n'essayent pas non plus de trouver, je sais pas moi, une possibilité de le placer eux-mêmes. Hein, pour leur éviter la cage, il faut quand même savoir qu'un animal qui a 10 ans a peut-être très peu de chance, pour les chiens je parle, hein. Sachant que l'espérance de vie d'un chien il n'est pas aussi conséquent que pour le chat. Il a très peu de chance d'être placé. Mais bon, on est SPA, on est obligé de les prendre, on les prend.
Hein. Y a Blackie qui est là depuis 12 ans, il a 19 ans, il est là où il y a les plus vieux. Le plus ancien pensionnaire au jour d'aujourd'hui. Non, on ne place pas comme ça. Non, non, pour ça, il y a même des fois des gens qui nous disent « Ah, mais c'est compliqué. » Ben oui, c'est compliqué. C'est un être vivant qui nous a été confié et on en est responsable et on ne veut pas qu'il aille n'importe où. On ne veut pas. Il n'est pas un jour près chez nous. Ils ont le temps chez nous. Ils sont pas... Ils ont largement le temps. Ils peuvent rester aussi longtemps qu'ils veulent, quoi. Et c'est un peu nos chiens. Quand on en parle, c'est... nos chiens, on ne dit pas le chien là, c'est, vous demandez à mes collègues, aux bénévoles, hein, c'est nos chiens. Hein.
Chaque chat ou chien adopté à la SPA, les propriétaires sont contrôlés, disons, un mois après ou deux mois après. Hein. Il y a des inspecteurs de la SPA qui vont visiter pour voir comment ça se passe, s'ils sont en bonne santé, s'ils sont bien nourris ou pas maltraités.
Lorsque les gens adoptent un animal, ils devraient être conscients du fait qu'il faut les garder jusqu'au dernier jour de leur vie, qu'il faut les nourrir, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut les soigner et être là jusqu'au dernier jour, et non pas à la première difficulté, au premier problème, les abandonner n'importe comment, ou quelquefois, quand ces animaux ont de la chance, au moins à la SPA. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Un animal n'est pas un jouet en peluche qu'on prend et puis qu'on abandonne.
En fait, on a un problème d'argent qu'on n'a pas prévu du tout. On était en colocation et finalement, la colocation se passe mal. On a un appartement énorme avec un loyer énorme. On se retrouve à deux dedans, sans trop de rentrée d'argent. Et on avait le rendez-vous aujourd'hui chez le vétérinaire pour le rappel du vaccin. Et on n'a que 50 euros pour les deux chiens. On n'a pas plus. Donc, on venait demander si c'était possible de trouver un arrangement ou d'avoir de l'aide aujourd'hui. Et bah, le monsieur il nous a répondu que ça serait sûrement positif et qu'il faut qu'on aille poser la question à l'accueil. Et on les a pris, on a les sous pour tout, mais là, c'est une colocation qui se passe mal. On a trois mois pour retrouver un appartement, on va limite se retrouver à la rue. Et on a pu garder que 50 euros ce mois-ci pour ça, parce qu'on leur achète plus des bonnes croquettes et tout ce qu'il faut. Donc on n'a pas économisé sur les croquettes pour le vaccin, par exemple.
Ça fait des années qu'on en veut un, si on le veut, c'est qu'on les aime, qu'on s'en occupe. Il y a plein de personnes qui nous ont déjà proposé de les racheter. À des prix exorbitants, c'est non, c'est pas possible, c'est mon chien, je l'aime. Non, c'est impossible, quoi.
On aura toujours de quoi manger pour eux, même si nous, on n'a pas à manger. Mais là, c'est le rappel du vaccin et on préfère aller poser la question plutôt que de laisser des chiens sans vaccin jusqu'à ce que nous, on ait des rentrées d'argent. Je suis en recherche d'emploi. Elle revient d'Afrique du Sud. Elle recherche un travail aussi.
Normalement, en ce qui concerne les vaccins, les vétos ne sont pas d'accord pour qu'on les envoie dans l'officine, à la clinique. Par contre, ça dépend des vétos qui viennent. Il y a des vétos qui acceptent de faire ça, vous savez, le mardi ou le vendredi matin, ici sur place. Donc on va certainement...
Le vaccin, c'est 56 euros par chien et que...
Donc on va certainement leur demander de passer mardi matin ou vendredi matin, selon le vétérinaire. Et selon l'importance aussi des animaux qui sont à soigner chez nous. Hein, parce que finalement, ils ont attendu jusqu'à maintenant, donc ils ne sont pas forcément... que ce soit déjà fait mardi, ça peut aussi être vendredi. Hein.
Oui.
Vous venez avec moi ?
Ouais.
Les animaux qui sont abandonnés, c'est-à-dire une personne qui vient nous trouver, qui nous ramène l'animal au refuge, parce qu'ils ne peuvent plus garder l'animal pour des raisons X, hein. À ce moment-là, on leur fait remplir un formulaire où ils sont obligés de consigner les qualités, les défauts, ce qu'ils mangent, etc., s'ils aiment bien les enfants, etc., tout ça. Et à ce moment-là, cet animal-là, après qu'il a été vu par le vétérinaire, on peut le placer, lui, par contre, tout de suite, directement. Hein. On n'a pas besoin d'attendre les 10 jours, parce que c'est un abandon. L'abandon veut dire qu'il rejoint tout de suite le refuge. Qui n'est pas le cas pour un animal trouvé qui passe d'abord 10 jours à la fourrière.
On a pas mal de cas aussi où voilà, mon nouveau copain ou mon futur mari est allergique, donc je ne peux pas garder mes chats que j'ai depuis des années. Sur un enfant, je peux comprendre. Il y a des cas d'allergie, mais un adulte peut se faire désensibiliser. Après, il y a des solutions. Les chats ne sont pas promenés. Les chats, effectivement, ils passent quand même leur journée dans la cave, c'est petit. Ceux qui viennent d'arriver, qui sont en isolation, c'est des petites cages où on n'a pas d'accès prévu à l'extérieur. Et puis, pour qu'on puisse mettre les chats en chatterie, il faut qu'on en ait placé d'ici pour pouvoir en mettre d'autres. Après, on a des stabulations plus grandes, hein, qui font 50 mètres carrés à peu près, où il y a une petite cabane de jardin au milieu chauffée en hiver, où là, on peut mettre les chats par dizaines. Parce que les chats, effectivement, on peut les mettre ensemble une fois qu'ils sont opérés.
S'il y a des problèmes d'allergie, là, il n'y a pas de souci. Les gens, ils viennent, ils disent, voilà, si c'est vrai, hein, c'est toujours pareil. Hein. On accepte le chien. Là, on accepte le chien, c'est clair que quelqu'un qui est allergique, on ne pourra plus le garder, le toutou ou le chat. Donc là, on récupère et on accepte de le prendre.
Il y a des cas vrais d'allergie, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il y a des cas où très facile d'allergie, où voilà, on n'a plus besoin du chat, en fait. C'est clair.
Vous n'êtes jamais sans revenu, hein. Ça, non. Et si vous avez gardé votre animal pendant 5 ans et qu'au bout de 5 ans, vous avez des problèmes financiers, ce n'est pas une raison pour abandonner son animal. Alors là, pour moi, ça, c'est exclu. On peut toujours trouver des solutions, quitte à venir chez nous pour avoir de la nourriture. Hein? on est tout à fait dispo dans ces conditions-là pour un prix minime, hein, de donner des croquettes ou des boîtes pour chats ou chiens. Mais abandonner quand on tient son animal, non.
Beaucoup de gens ne se rendent pas non plus compte qu'un animal coûte de l'argent. Quand je vais à la SPA et j'évite de faire le tour des cages, parce que voir les yeux de ces chiens ou de ces chats qui vous regardent en ayant l'air de dire « tu me prends », ça me fait mal au cœur. Mais je les vois de loin et je vois que ce sont 9 sur 10 des grands chiens. Et je me demande toujours qu'est-ce qui peut inciter les gens à prendre le plus grand modèle. Mais ces chiens-là mangent beaucoup, ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils sont conscients de ce que coûte un chien? Parce qu'un chien doit être nourri conformément à sa nature. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas les restes, il mange de la bonne nourriture. Les gens ne se rendent pas compte. Maintenant où les temps sont difficiles, hélas pour tout le monde, on en parle tous les jours à la radio et à la télévision. Les gens abandonnent parce qu'ils n'ont plus les moyens. Et c'est ça qui est dramatique. Il y a les frais de vétérinaire qui sont évidemment, il faut y penser, et c'est quelque chose qui coûte cher. Et j'en parle toujours et beaucoup avec notre président pour lui dire, vous savez, beaucoup de gens ne peuvent pas assumer les frais de castration et de stérilisation parce que c'est très cher. Il est évident que vous pouvez être un parent pour un animal absolument modèle sans avoir nécessairement l'argent pour une stérilisation qui est très très conséquente. Il est évident qu'il faudrait aider ces gens-là.
On a un planning qui est attribué en fonction du nombre d'associés dans les cliniques. On tourne tous régulièrement à la SPA. Nous, ça doit être une fois tous les 2 mois à peu près, une matinée. Donc les vétérinaires vont 2 jours par semaine en fait à la SPA, le mardi et le vendredi. Donc les animaux sont vus très régulièrement. Ils sont vaccinés, soignés. On nous soumet des différentes pathologies. Et donc le planning, il est organisé selon un roulement, quoi. C'est vraiment à tour de rôle, on y va. C'est bénévole dans le sens où, bien sûr, on n'applique pas les tarifs normaux, hein. On leur fait un tarif adapté. Et puis on essaie aussi de leur amener les médicaments que les gens nous ramènent, les invendus, les choses comme ça.
Les animaux à la SPA ne sont pas gratuits, parce que malheureusement nous avons des frais vétérinaires, vu que nous devons vacciner les animaux, nous les identifions par puce et nous stérilisons les chiennes, et nous stérilisons et castrons tous les chats. Donc le prix pour l'adoptant et pour un chat mâle, donc vacciné, tatoué, castré, testé contre la leucose, est de 150 euros. Pour la femelle, c'est à peu près 200 euros. Donc vacciné, tatoué, stérilisé, testé leucose, avec le passeport, bien évidemment. Pour les chiens, les tarifs sont pour les mâles 180 euros et les femelles à peu près 300 euros. Hein. Donc pareil, vacciné, tatoué, et les femelles sont systématiquement stérilisées chez nous.
Là, on m'amène un chien. Déjà, il faut juste me dire, c'est un chien qui a été trouvé.
Trouvé, d'accord.
Donc, on ne sait pas quel âge il a. On sait pas. Il n'est pas identifié.
Non.
Voilà. Donc, on va regarder si tout va bien. Et puis, s'il est en forme, on va le vacciner, lui faire le premier vaccin et l'identifier. Donc, lui mettre une puce électronique. Alors, je vais déjà regarder à peu près quel âge il a. On essaye d'estimer. Généralement, on estime en regardant les dents, la dentition. Donc là, on voit qu'il a des dents qui sont tout à fait... correct, pas trop de tartre, pas de déchaussement. A priori, c'est un chien jeune. Bon, après, c'est pas toujours très très objectif comme critère. Hein. Ils peuvent avoir des bonnes dents en étant un peu plus âgé, mais je dirais que là, il doit avoir peut-être 4-5 ans. Moins de 5 ans, en tout cas. Première réaction du chien quand on approche les mains. C'est sûr qu'on va pas directement mettre la main dans la bouche, mais quand on approche la main pour qu'il sente la main, on voit s'il y va, qu'il sort là, celui-là, il vient, il vous lèche les mains, il saute dans les bras de la demoiselle, donc bon, ça va. Mais c'est sûr qu'un chien qui va commencer à grogner ou qui a un regard un peu méfiant, on va pas l'aborder de la même manière. Ce chien-là, c'est vrai qu'a priori, je m'en méfie pas. Tout en restant quand même, vous voyez, j'ai pas non plus la tête dessus, Donc là, c'est, bah, je regarde s'il n'y a pas des signes de vieillissement du cristallin. Ça, c'est aussi pour voir un petit peu l'âge, pour confirmer. En gros, vers 9-10 ans, on a un cristallin qui devient un peu bleuté. Donc là, on n'a pas ces signes-là. Ça confirme qu'il doit être quand même assez jeune. Puis je regarde s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas de conjonctivite. Voilà, alors on me demande la race aussi. Bon, là, ça va être difficile de donner la race parce que manifestement, c'est un peu un croisé.
Entre quoi et quoi ?
Alors, un croisé... Oh, peut-être de l'épagneul, un peu. Hein, hein, vous en pensez ? Là, je dirais 4 ans. Donc, les yeux, ça va. Ensuite, on regarde les oreilles. Donc, elles sont propres. Il n'a pas d'otite, ça va. Ensuite, donc, c'est une petite femelle. Alors,
bravo.
On va regarder... Alors, les mamelles, là, elles sont assez développées. Donc, elle est en lactation, là.
Ça veut dire qu'elle est pleine.
Pas forcément. Non.
Elle n'est pas sur plein moment, elle n'a pas de petits.
Ouais, je vais la palper quand même pour voir si on sent pas des petits. Alors, je palpe le ventre. Bon, a priori, je ne sens pas de petits dans le ventre. En plus, la palpation, elle est souple. Alors, la lactation, ça peut vouloir dire soit qu'elle a eu des petits, il y a quelques mois, soit qu'elle est dans les 2 mois suivant les chaleurs. Parfois on peut avoir des lactations chez la chienne sans petit, on appelle ça des pseudo-lactations. Bon bah non, c'est bon, donc faudra voir. Bah, a priori elle n'est pas stérilisée du coup, hein, faudra la stériliser, parce que ça c'est aussi une question. Quand on récupère l'animal comme ça, on ne sait pas après quand on les place.
C'est bon.
Ensuite on va écouter son cœur. Ah, si tout va bien.
Je pense qu'il va alors. A priori, on est déjà bien parti.
Je confirme. C'est bon. D'accord, pas de souffle au cœur, mais c'est bon. Voilà, donc bah, en gros, on a une femelle non stérilisée de 4 ans.
Mais en fait, elle en avait déjà un qu'elle n'a plus. Et elle en veut un autre. C'est mignon. Par exemple, oui, c'est sûr que moi, j'aimerais tout de suite le prendre, là. Mais bon, il grandit, quoi. C'est ça, de la force, après.
Depuis toute petite, j'adore les animaux. Et puis, voilà. Mais bon, là, quand même, mon chien est parti. Ben, c'est sûr que j'étais triste. Et puis, voilà. Mais quand je me suis rendu compte que j'aimais les animaux, ben, j'aimerais bien reprendre un chien, quoi. Quand on est tout seul, ben, ça fait... Enfin, c'est bien d'avoir quelqu'un à côté de soi.
La manière dont ils se déplacent, la manière dont ils habitent un appartement, ils donnent une présence, ils réconfortent, voilà, il y a tout ça, quoi.
En plus, un chien, c'est vraiment affectif. Et puis, un chien jeune, c'est toi qui peux l'éduquer, alors qu'un chien vieux, on ne sait pas vraiment comment après il peut se comporter. Voilà, mais bon, à la rigueur, si vraiment j'ai le coup de foudre avec le chien, ben, c'est clair que là...
Je ne peux pas vous dire, il faut vous renseigner à l'accueil. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est adorable, je l'ai tondu la semaine dernière.
On a décidé d'adopter un chien, et puis j'ai fait quelques sites de SPA sur internet, et au hasard, je dirais vraiment au hasard, je me suis dit on va aller voir sur Strasbourg. Donc pour ça qu'on est là. On avait déjà des chiens avant, le dernier chien qu'on a eu était un Golden Retriever qui est mort de vieillesse en fait. Hein. 8 ans ?
12.
Non ?
Pourquoi tu veux 8, toi ?
12 ans, elle avait ?
Eh oui, vous avez 12 ans, j'aurais pas...
J'arrive pas à m'y faire, hein, ça...
C'est pour ça que le vétérinaire a dit que l'opération, c'est faisable, mais c'est trop douloureuse pour le chien.
Oui,
On ne pas laisser piquer un chien de 8 ans. Je sais pas pourquoi elle a 8 ans, peut-être qu'il veut, elle a 8 ans.
Mais j'arrive pas à m'y faire.
On va regarder l'autre, moi.
Alors, je vais lui donner ça. Il faut remplir la feuille, si vous voulez bien, ça aussi, ça.
Normalement, lorsqu'une personne vient chez nous pour adopter, ça ne se passe pas en 5 minutes. D'abord, l'animal, je parle du chien ou le chat, c'est-à-dire le chien, on le sort, ils font un petit tour, une petite promenade. Le chat, ils ont la possibilité de le caresser, etc., pour voir le feeling, hein, si ça se passe bien, etc. Et après, quand ils reviennent, s'ils sont partants, à ce moment-là, on les questionne. On leur demande quand même s'ils travaillent, si le chien reste seul, etc. On leur demande s'ils avaient déjà des chiens ou des chats, etc. Sinon, on leur donne des renseignements et quelquefois, ça peut durer une demi-heure avant que... Et on peut refuser. On peut refuser l'adoption en fonction du caractère du chien. Et par exemple, on ne va peut-être pas forcément placer un husky chez quelqu'un qui est en appartement. Sauf si quelqu'un qui est très sportif, qui va courir avec lui, etc. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc, logiquement, ils partent d'ici, ils savent déjà. Ils savent déjà ce qui les attend. Hein. Il y a le coût aussi, hein, pour les gens qui prennent la première fois un animal. Il y a le coût. Il y a aussi, si jamais l'animal tombe malade, il faut leur expliquer que les vétos, c'est très cher. Hein. S'il y a une opération à faire, il faut avoir les sous pour, hein, etc. Donc, on ne leur donne pas que les avantages, on leur donne aussi les contraintes.
C'est effectivement pas les mêmes pathologies qu'on va retrouver à la SPA. On va plus avoir des pathologies de collectivité. Donc on va avoir des maladies virales, des maladies contagieuses, infectieuses, qu'on aura moins ici, hein, enfin en consultation. On va avoir chez le chat bah, pas mal de coryza, qui sont des rhumes infectieux. On va avoir, quand il y a une épidémie de gastro-entérite, on va la retrouver sur plusieurs animaux. C'est avant tout de la gestion de pathologies presque d'élevage, en fait. Hein. C'est pas la même échelle, en fait, de traitement. On a plus une échelle de collectivité par rapport à une échelle individuelle qu'on retrouve en consultation classique. Après, au niveau des pathologies, on va avoir aussi peut-être des demandes un peu moins poussées au niveau diagnostic. C'est évident, hein, y a quand même un aspect économique qui intervient, même s'il intervient quand même pas de manière très drastique. Hein. Je trouve qu'à la SPA de Strasbourg, ils sont quand même très interventionnistes et ils font très très attention à leurs animaux. Donc ils n'hésitent pas à dépenser de l'argent pour des soins. Mais on est quand même à un moment toujours freiné par l'aspect économique, hein, ça c'est évident.
Je vous présente Bijou. Il était sous traitement pour coryza. Moi, je trouve qu'il est guéri, parce qu'il va bien, moi, je trouve.
Ouais.
Ma question, maintenant, je voudrais que vous me confirmez ou que vous me dites le contraire. Il reste en cage.
Mm-hmm.
Autrement, est-ce que je peux le sortir de la cage, le mettre ailleurs, et le rappel de vaccin?
D'accord.
Il lui faudrait. Il est gentil comme tout.
Oui, oui.
Oh, c'est adorable.
Bon, les yeux, ça a l'air d'aller, effectivement. Il avait quoi? Il avait les yeux qui coulaient et puis
non, il mangeait plus. Il mangeait plus. Ouais. Ah aussi. Oui, une chose que j'ai remarqué quand même, il adore les croquettes pour chatons.
D'accord.
Il mange plus facilement quand c'est des croquettes de bonne qualité que quand c'en est d'autres.
C'est sûr.
Il sait ce qu'il veut.
Sur le nez, là, il a une petite lésion. Ça, c'est encore du temps qu'il avait le coryza, je pense.
Je pense, oui.
Ouais. Non, mais effectivement, il est sain, là. Hein. Vous pouvez le mettre
en stabulation normale. Parce que je voudrais
sortir son climat. Oui, parce qu'après, il va retomber malade.
Ouais, voilà.
Il a plus de ganglions, non, c'est bien.
Alors, un rappel de vaccin, tu dois être la météo.
D'accord.
Un stress, hein, de se retrouver avec d'autres chats. Il y a des chats qui aiment bien vivre avec d'autres chats. Et vous avez des chats qui aiment bien rester seuls, qui n'aiment pas avoir un autre chat dans leur territoire. Et ici, ils sont obligés de partager. Et la cage, ce n'est pas l'idéal. Hein, on ne peut pas le manipuler quand il est en cage parce que ça stresse trop. Donc on l'a laissé en liberté ici dans la pièce. C'est tout. Et ça l'a calmé. Seulement là, il a peur maintenant. Alors donc, je préfère faire une anesthésie, on est tranquille. On se fait pas mordre, on se fait pas griffer. Et il n'a pas de stress lui-même. Parce que c'est des chats qui viennent de rentrer, qui sont trouvés. C'est pas encore des chats qui sont opérés, forcément pas adoptables. Ils sont pas au placement, c'est pour ça qu'on les met dans une autre pièce. Il y en a qu'on arrive très bien à manipuler, facilement, ils se laissent faire, ils sont gentils, et puis d'autres qui ont peur, tout simplement. Hein? Elle est gentille, mais elle me lève le cul, alors je suis pas sûre qu'elle est stérilisée.
Oui, ils ont peut-être pucé à deux mois.
Et puis jamais stérilisée. Hein?
Ça peut être un environnement de stress, ouais. C'est difficile à dire, bon, ce chat, il a l'air gentil, hein, mais... Il est assez curieux, là, il se frotte au magnéto.
Il met son odeur, donc. Hop.
Ouais.
On va faire ça comme ça, hop, mouillé.
Vous faites la compression?
Ouais. Alors, regardez comme je tiens le chat. Gaël. L'arrière est coincé entre mes bras. Oui, pchut.
Donc sans alcool, c'est pas évident quand même.
J'ai mouillé pourtant. Mouillé encore
c'est
un peu.
Je vais en chercher, là, si je
Oui, mais on commence tout juste à se déplacer, donc on n'a pas encore l'habitude.
Parce que
Allez. Je la sens à peu près. Mais...
Allez. Mucho, mucho, mucho.
On va essayer, puis sinon on va chercher.
Oui, mais sinon quand elle va aller, ouais, en espèce de banc.
Ouais, non, je préfère aller.
Chercher
ouais,
là, on voit. Donc, bon, je te range, attends.
Et là, on essaye de faire une prise de sang, mais comme ici, on est, pour l'instant, on n'a pas l'habitude d'être ici. Il manque l'alcool. L'alcool, c'est pour écarter les poils. Quand on les tombe pas, ça les stresserait trop.
Bah là, on commence à préparer les papiers pour, nécessaires pour pouvoir faire vacciner et pucer les animaux par le vétérinaire. Donc, il y a un passeport à remplir. Il y a une feuille à remplir qui indique le numéro de passeport, le numéro de puce, qui sont après transmis aux autorités qui sont chargées de surveiller un petit peu ce qui se passe. Hein. Donc là, on prépare les papiers. On attend que le chien arrive. Et quand le chien arrivera, le vétérinaire vérifiera et mettra la puce et le vaccin. Tout ce qui est papier, normalement, la direction du service vétérinaire reçoit un doum pour savoir quel chien, quel passeport, avec quelle puce, ou pareil pour les chats.
Il réagit pas, là, je suis en train de piquer. Il remue la queue.
Oui.
Voilà. Donc le vaccin, c'est fait. Maintenant, on va faire la puce électronique. Bon, la puce électronique, ça va peut-être être un peu... Alors la puce électronique par convention, ça c'est pour la rechercher plus facilement quand on passe le lecteur, c'est au niveau du cou à gauche. On appelle ça la gouttière jugulaire. Donc on lui pince bien la peau, je désinfecte un petit peu parce que c'est quand même un trou un peu plus important. Voilà, et là je vais essayer d'aller vite pour qu'il le sente pas trop. Voilà. Oh mais il est vraiment gentil, il a rien dit du tout. Voilà, c'est fait. C'est vrai que quand on fait ça, par exemple, sur un chat qui ont la peau un peu fine, on a parfois des réactions quand même. Mais l'avantage de la puce électronique, c'est quand même qu'on peut injecter ça sans anesthésie par rapport à un tatouage qui se fait sous anesthésie. Donc. Alors après, pour un chien qui est vraiment intouchable, parfois on anesthésie, mais bon, ici, c'est rare quand même. Parfois, en consultation, on anesthésie.
C'est purement administratif, c'est très important que ce soit bien fait, parce que si les papiers sont mal remplis, c'est l'animal qui pourrait éventuellement en pâtir en cas de je sais pas, un chien qui a la rage dans le département, ou le chien se perd, la puce est mal mise, le papier mal rempli, n'a pas les bonnes coordonnées. Oui, c'est très précis, c'est surveillé, on a des visites de la direction des services vétérinaires qui vérifient si les papiers, etc. sont bien remplis. Oui, oui. Non, non, c'est pas n'importe quoi un carnet de vaccination, hein. Ça suit l'animal quand même toute sa vie. Hein.
Moi, j'ai fait mes études à Toulouse où c'était un peu moins organisé au niveau de la gestion. Il y avait un veto qui était bénévolement là, mais c'était il y a quelques temps. Hein. Mais il y a des fonctionnements qui sont un peu différents. Là, je pense que par le roulement de veto qui interviennent vraiment régulièrement et puis à tour de rôle, ça permet d'avoir des gens qui s'impliquent vraiment bien. On n'y va pas souvent, donc quand on y va, on fait vraiment les choses à fond. On y passe une matinée. Et enfin, on nous demande en tout cas de faire quand même des soins de qualité.
Alors, je voudrais quand même prévenir que les euthanasies, il y en a parce que, bon, un animal malade, on ne va pas non plus faire de l'acharnement, hein, ou un animal qui représente un risque pour les employés. C'est clair, on va endormir ces animaux-là. Mais c'est tout, hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les SPA, donc je ne peux pas m'engager pour les autres SPA, je ne peux m'engager que pour la SPA de Strasbourg. Il y a, effectivement, mais quand c'est nécessaire.
Souvent, les gens ont quand même l'impression qu'à la SPA, quand un animal est malade ou trop vieux, on va le piquer. Alors que ce n'est pas vrai. Hein. Je trouve qu'ils sont quand même assez attentifs et assez interventionnistes quand c'est nécessaire.
Ça, je tiens à le dire, qu'ils n'euthanasient pas. Sauf dans des cas où, par exemple, il n'y a plus rien à faire, des animaux qui sont voués, de par leur état physique, qui ne peuvent pas guérir. Mais autrement, il n'y a pas d'euthanasie.
Les animaux qui viennent chez nous, ils finissent leur vie chez nous. Ce n'est que quand ils sont malades ou quand ils sont agressifs qu'on prend la décision de les endormir.
Là, malheureusement, c'est un chat qui est trop sauvage pour pouvoir être adopté et pour pouvoir être touché. Donc, on est obligé de l'euthanasier. Même en plus, la manière dont ça se passe, c'est un peu dur parce que, comme on peut pas le toucher, on est obligé de le mettre dans une cage de contention. Là, je lui ai d'abord fait un anesthésique pour qu'il s'endorme, mais je lui ai fait l'anesthésie là déjà dans la cage de contention et puis on va attendre et puis on va l'euthanasier.
Par exemple, il y a un chien qui rentre qui a 12 ans. Je suis obligé de le prendre pour problème d'allergie ou autre. Donc je sais qu'il ne sera plus adopté. À ce moment-là, il faudrait que je fasse tout de suite. Mais dès qu'on le garde quelques jours, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible vous attacher au chien ou au chat et prendre la... Vous savez, ce n'est pas facile de prendre une décision d'euthanasie. Il y a peut-être des gens qui font ça normalement, hein, sans scrupules, hein, etc. Nous, non, ici. Je sais que quand je suis obligé de donner, confirmer le tal pour un chien ou un chat, je suis obligé d'acheter plein de mouchoirs pour les employés, parce que quand ils reviennent, ils ont les larmes aux yeux. Hein. Quelquefois, même le vétérinaire, il est... Bon, il sait qu'il faut le faire, mais c'est difficile. Hein. C'est très difficile. Hein.
L'euthanasie, c'est sûr que c'est un acte qui est toujours... Enfin, on se sent toujours concerné. Je pense qu'au bout de 8 ans, au bout d'un an, au bout de 30 ans, à mon avis, c'est pareil. Hein. C'est pas anodin, c'est sûr. En même temps, c'est jamais des euthanasies de convenance. Hein. On le fait toujours pour une raison qu'on juge noble. Hein. Donc, moi, je me raisonne comme ça. C'est-à-dire que c'est sûr que ça m'amuse pas d'euthanasier un animal. Hein. C'est toujours quand même un peu dur, mais... Ça ne m'atteint pas non plus personnellement parce que je sais que je le fais pour des raisons qui sont valables et qui sont dans le respect de l'animal. C'est jamais abordé le problème de l'euthanasie, que ce soit dans la gestion personnelle de l'euthanasie. Donc, je pense que, enfin, on parle beaucoup en ce moment du syndrome du burn-out professionnel, hein, et il y a beaucoup de vétérinaires qui sont un peu déprimés. On a une profession qui est touchée par ça. Je pense que l'euthanasie et la gestion de la mort doit avoir une incidence là-dedans. C'est vrai que c'est pas évident à gérer de donner la mort comme ça, enfin, d'être la personne qui donne la mort. Donc ça, déjà, c'est pas abordé à l'école, et on n'aborde pas non plus la gestion des propriétaires. Donc, et ça, pour moi, je dirais que c'est le plus dur, mais ça, à la SPA, on n'est pas trop concerné puisque il n'y a pas de propriétaire qui nous le présente. Mais en consultation, la gestion du propriétaire et de la douleur, la tristesse des personnes, moi, c'est presque ça qui me touche le plus et qui fait que c'est un moment éprouvant.
Chaque personne est différente. Et souvent, les vétérinaires me disent aussi. Ils perdent le client quand ils perdent l'animal.
Oui, c'est vrai qu'il y a des gens
qui changent des vétérinaires, les gens.
C'est vrai que, enfin, il y a les deux cas. Il y a des gens qui sont, quand on prend bien le temps de leur expliquer et puis que ça se passe bien dans la mesure où ça peut bien se passer, les gens sont reconnaissants, au contraire. Ils sont contents de la manière dont ça s'est passé. Ils ont l'impression d'avoir été bien accompagnés et du coup ils reviennent au contraire vraiment. En confiance et il y a vraiment une relation particulière qui s'installe. Il y en a d'autres pour qui, même s'ils n'en veulent pas vraiment au vétérinaire, ils ont du mal à revenir sur, rien que sur le lieu en fait, où leur animal est mort. Parfois, ça peut être juste changer de salle de consultation. Il y a des gens qui ne veulent plus revenir dans telle salle parce que c'est là où ils ont vu leur animal mort.
Il faut savoir qu'on a des animaux actuellement, des chiens et des chats, qui ont 15, 16 ans, dont 12 ans de cage et qui sont toujours là.
Donc là, plus grand, plus énervé aussi.
Non, il a.
Oui, c'est les yeux. D'accord.
Ouais. Alors. Il a un problème de mâchoire et il est chez vous jeudi matin pour faire une radio de la mâchoire.
D'accord. C'est faux. Donc c'est peut-être un chien qui a eu peut-être une ancienne fracture de la mâchoire ou quelque chose comme ça. On va le regarder. Ouais, il a l'air gentil. Alors. Déjà, il est maigre. Il a. Ouais. On sent l'os là du crâne.
Mais c'est bizarre parce que là, c'est au niveau de la tête.
Ouais.
Regardez le reste du corps, il est pas si maigre que ça.
Non, mais c'est vrai qu'il y a certaines maladies qui font vraiment une fonte des muscles de la
voilà,
tête comme ça.
Ouais. Et puis les yeux sont super enfoncés. Hein.
Ouais.
Quand on regarde, alors pour les soins, alors il a du optimum, voilà, ouais. Thiamicine et des larmes artificielles.
Hein. C'est quoi le premier Optimum
Optimum, Thiamicine et des larmes artificielles.
D'accord.
Moi je vois pas d'évolution, ça fait 8 jours aujourd'hui pile poil. Il n'y a rien de c'est toujours aussi rouge.
Donc là, il y a un peu moins de pus.
Ah, si,
là,
on a sorti hier.
Il y a une kératite sèche. Hein, donc ouais. Il y a l'œil trop sec. Hein, ce qui fait que les larmes ne jouent pas leur rôle de lubrification. Et il a une atteinte infectieuse. Quoi, vous voyez tout le pus qu'il a dans l'œil. Là. Bah, c'est délicat à traiter, ça, parce que visiblement, il a déjà un traitement quand même qui a été mis en place depuis une semaine. Qui a l'air de ne pas faire beaucoup d'effet, parce que là, c'est toujours...
C'est rouge, c'est très
rouge. Ouais. Ouais.
C'est très rouge. Hein.
Et il a des larmes artificielles?
Oui, ouais.
Plusieurs fois par jour. Une fois.
Une fois,
il faudrait peut-être en mettre plus. Hein. Il faudrait. Parce que mais même l'optimine, ça marche pas. Ça, c'est
non,
fou.
Non,
c'est
une fois par jour. Hein. On fait ça une fois par jour.
C'est sûr qu'au prix aussi.
Mais comme on n'est pas doué, la petite goutte, nous, on en met trop. Non, il est peut-être aussi même.
Kansas.
Il se fait rincer en plus. L'ancien propriétaire lui donnait à bouffer des trucs, il n'arrivait pas bien à mâcher aussi. Hein.
Mais il n'est pas maigre derrière.
Parce que là, l'enfoncement des yeux, ça peut être aussi de la maigreur. Hein.
Voilà, c'est ça.
C'est le coussinet graisseux qui est derrière l'œil qui fond, et puis du coup, l'œil s'enfonce.
C'est quand même.
Là, disons qu'il y a deux problèmes sur l'œil. Hein. Il y a la maigreur qui fait qu'il a l'œil enfoncé, et puis surtout la sécheresse. Quoi. Mais la sécheresse, c'est embêtant parce que si on arrive avec le traitement qu'il a, si on n'arrive pas à le régler.
Maintenant, c'est fait une fois par jour. Est-ce que,
Je pense qu'il faudrait mettre plus de larmes artificielles quand même pour plus lubrifier, nettoyer peut-être plus l'œil. On va le faire. Là, il y a des produits.
Chercher tout ça.
Tu vas regarder la main, je crois. Ne
l'ouvrez pas trop, il a mal.
D'accord.
Il hurle.
Il peut l'ouvrir de ça.
Il peut l'ouvrir de ça.
Alors, il arrive à aspirer la nourriture. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner comme ça. Et avec les dents d'en bas, il monte.
D'accord. Non. C'est vrai que ça peut être une vieille fracture de mâchoire qui s'est mal consolidée et puis avec de l'arthrose ou des choses comme ça. Alors pas forcément une maltraitance.
Puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, toute personne ayant exercé des sévices graves ou cruels envers un animal de compagnie. C'est simple, net, précis. Les gens sont poursuivis. Alors quand l'auteur est identifié, oui. Les tribunaux suivent, il y a une poursuite, oui. Pas forcément de prison ferme, mais souvent des amendes, oui, quand même. Oui.
Dans le cas de ce chien, même si on voit qu'il y a une ancienne fracture de la mâchoire, une fracture de la mâchoire, après, c'est pas forcément volontaire non plus, enfin, délibéré.
Tout à fait.
Donc, ça va être difficile quand même à prouver. Après, il faut peut-être des témoignages des voisins. Enfin, dans le cas d'un
mauvais traitement avéré, oui, on porte plainte. Bien sûr, quand une fracture, ça peut être n'importe quoi. Un chien peut se...
Tout simplement.
Mais quand on a des doutes, oui, on porte plainte.
Il y a aussi des maladies qui donnent des problèmes de la jonction temporomandibulaire. Est-ce qu'il a été abandonné justement parce que c'était trop lourd à gérer? Parce que là, les soins qu'ils lui font, c'est quand même pas donné. Hein, la petite pommade qu'on lui met pour essayer de relancer la sécrétion lacrymale, c'est quand même des pommades qui sont à 30 euros le tube. C'est des soins qui sont quand même chers. Donc est-ce que la personne voulait pas assumer ça? C'est possible. Je pense que c'est pas anodin qu'il soit dans cet état-là.
Oui, moi aussi, je pense qu'il a été abandonné dans la rue parce que...
Parce que c'est trop lourd à gérer, quoi.
Bah, c'est déjà contraignant au niveau des soins, hein, puisqu'il faut le faire plusieurs fois par jour.
Là, on va lui nettoyer les yeux pour essayer d'enlever les gros amas de pus, là. Voilà. Il se laisse faire, il est gentil.
Ah non, il est gentil, hein, il se laisse faire. Hein.
On ne place pas systématiquement. Ça va dépendre des gens, en fait. Parce que déjà, les gens ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Parce que déjà, nous refusons aussi des fois des placements parce que les situations ne conviennent pas. Il n'y a pas de règle. On peut arriver à ne rien placer comme on peut en placer 4-5. C'est vraiment variable. Hein. Ça dépend. On leur demande de faire le tour tout seul et de relever le numéro des cages des animaux qu'ils ont repérés. Après, on voit avec eux quel est leur mode de vie. Et si vraiment il y en a un qu'on a en tête, on peut aussi leur proposer, on leur sort de cage. Mais au départ, il faut quand même qu'ils aient le coup de cœur. Après, ils disent « Ah, mais ils aboient, etc. » Donc on leur explique, on leur sort le chien de cage. Une adoption peut durer 2-3 heures. Hein. C'est pas en 5 minutes, bonjour, j'arrive, ah, celui-là il est beau, il me plaît, il va bien avec la couleur de mon canapé, je le prends. Non. Ça marche pas. On est très embêtant. Puis les gens sont aussi assez contents qu'on soit vraiment attentifs. Ils aiment effectivement raconter aussi comment ils vivent et qu'on les conseille aussi. Hein.
C'est sympa.
Ouais.
Il y a des chiens que nous-mêmes on fait opérer, où on doit faire mettre des broches ou faire amputer d'une patte, oui, ou des chats qui rentrent blessés. Donc après, le vétérinaire voit, nous dit effectivement ce qu'il est possible de faire. Donc nous, on a encore la possibilité financière de pouvoir le faire, parce que c'est un coût quand même assez important, les frais vétérinaires. Donc on le fait et puis après, donc, on les propose à l'adoption. Hein. Un chien à 3 pattes peut se faire adopter, bien évidemment, ou un chien qui a un œil en moins, ou une oreille coupée, ou... Peut-être même paradoxalement, souvent, ça peut être des animaux qui vont peut-être partir un petit peu plus vite parce que justement, ils font plus pitié, ils ont plus souffert. Donc on a
Un chien qui va bien, qui est en bonne santé, on se dit, quelqu'un d'autre le prendra, mais là, le pauvre, regarde, il est tout malheureux, il lui manque une patte, il a été trouvé sur l'autoroute, jeté d'une voiture, voilà. Bon, déjà, la plupart des gens qui viennent, oui, il y a quand même vouloir sortir un animal d'une cage, oui. Non pas parce qu'il est enfermé en cage et qu'il n'est pas bien, mais simplement parce qu'il a souffert d'un traumatisme, d'un abandon, donc, quelque part, réparer la bêtise humaine des autres, certainement, oui.
J'ai une excellente amie. Il y avait un chat qui traînait parmi les 4 ou 5 dont on s'occupe, qu'on ne pouvait pas approcher. Il ne rentrait jamais. Et un jour, elle me téléphone. C'était il y a 2 ans. Un vendredi saint, je m'en rappelle. Je venais de terminer les travaux que je faisais à la maison. Elle me dit, Marguerite, le chat est rentré. Il est sur mon canapé. Vite, ferme la fenêtre. J'arrive. Je suis arrivée, on l'a mis dans une cage, on a cherché le nom du véto de service, on y est allé. Ce chat était pratiquement mourant. Je n'ai jamais vu un chat dans une condition pareille. C'était un tas d'os avec une peau épouvantable. Eh bien, je peux vous dire une chose, croyez-moi, je n'ai pas des grands moyens, mais dans l'espace de 10 jours, j'ai dépensé 1 000 euros. Et ça, évidemment, tout le monde ne peut pas le faire. Moi, je l'ai fait parce que pour des animaux, je renonce facilement à autre chose. Eh bien, ce chat qui était mourant, le véto nous a dit, on a dû lui faire enlever les dents, qui suppurait, etc. Son espérance de vie était limitée. Eh bien, il est toujours là. Mais il reçoit maintenant des piqûres, il est assez câlin, on peut le toucher, il est heureux de vivre, il est gros et gras. Mais qui aurait pu faire ça? Il a eu une veine folle et je crois que les animaux ont comme les êtres humains un destin. De temps en temps, il y en a un qui a de la chance, comme nous pouvons avoir de la chance, mais tout le monde n'en a pas nécessairement. Et c'est ça le drame, vous voyez?
De satisfaction, surtout. Surtout satisfaction. Autrement, la satisfaction d'avoir des animaux, d'avoir un plaisir, aller leur donner à manger, à les soigner. Hein. Surtout à les soigner. Hein. Je dis, dès qu'il y a un problème, quand je vois qu'il y a un problème, c'est tout de suite, j'essaye tout de suite de traiter moi-même, sinon, je vais aller chez le vétérinaire.
Les animaux m'apportent beaucoup de bonheur. Quand on dit toujours les animaux, s'ils pouvaient nous parler, mais ils nous parlent. Ils nous parlent avec leurs yeux, avec leur manière d'être. Et quand je vois mon chien et mon chat, je suis très très heureuse. Et je suis heureuse chaque fois que je peux faire quelque chose pour un animal. Parce que je dis toujours, un jour je voudrais aller au paradis, mais au paradis des animaux, comme tous ceux qui aiment des animaux. Et je pense que là-bas je rencontrerai à nouveau tous ceux pour lesquels j'ai fait quelque chose, et je crois qu'il y en aura beaucoup, et j'en suis ravie.
Il faut savoir que, même aujourd'hui encore, l'animal est considéré comme un meuble. Ça veut dire qu'il n'est pas considéré comme un être humain. Mais il y a quand même énormément de progrès qui sont faits à ce sujet. Je vous avais expliqué tout à l'heure que nous sommes affiliés avec Lyon. Donc la présidente de Lyon, elle se déplace régulièrement à Paris. Donc c'est plus ou moins, nous, quand on a des soucis quelconques, il y a des choses qui nous déplaisent, etc., on fait remonter l'information. C'est pour ça qu'on est affilié là, à chez eux. Et à ce moment-là, après, il y a le retour. Mais moi, personnellement, je ne peux pas me plaindre auprès du ministre de l'Agriculture. Hein. Je n'ai pas mes entrées chez lui. Hein. Et même si je fais un courrier, c'est... Moi, je suis toujours plutôt pour un face-à-face plutôt que d'un écrit.
Toutes les fois que je peux, qu'il s'agisse d'argent ou qu'il s'agisse d'une autre question, dans le domaine de la protection des animaux, j'essaye toujours de parler de ceci. Je n'approche pas des hommes politiques en particulier, mais par exemple, j'approche monsieur Bitz qui est de notre quartier et je lui parle des pigeons. Et chaque fois qu'il me voit, il me parle de pigeons parce que... Mais je voudrais bien sûr avoir la possibilité d'approcher des gens et de pouvoir parler de ces problèmes. Mais vous savez, ces gens sont excessivement sollicités dans tous les domaines. On leur demande de l'argent. Tout le monde voudrait en avoir plus. Bien sûr, nous voudrions en avoir plus. Ce que je peux faire, c'est de parler aussi à des amis, à des gens que je rencontre.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, en cas de divorce, aucun des deux ne veut prendre l'animal. Ou alors, il y a un des deux qui veut le prendre, mais l'autre n'est pas d'accord, etc. Quand il y a, et bien, à ce moment-là, l'animal, il atterrit chez nous jusqu'au moment où le jugement définitif de divorce soit prononcé et que l'animal soit confié soit à l'un, soit à l'autre.
Nous avons des cas de maltraitance évidents. On a porté plainte beaucoup, je crois, cette année. Et il a toujours existé. Je ne pense pas qu'il y ait une évolution à ce niveau-là. Mais par rapport à 20 ans, je veux dire, on porte plus plainte, nous. Mais il y a plus de délations. Mais je ne sais pas sûr si ça a vraiment beaucoup augmenté. Le nombre d'animaux maltraités, ça n'a pas augmenté vraiment. C'est toujours existé. Et ça existera toujours, tant que l'animal n'est pas reconnu comme un être vivant. Puisque c'est un objet, de nos jours, il est considéré comme un objet. Hein. Vous pouvez échanger un chien contre une machine à laver, c'est tout à fait, entre guillemets, légal. Il y a un problème politique, mais il y a un problème aussi au niveau de l'éducation. Puisque si, à l'école, chez les jeunes enfants, ils étaient éduqués en expliquant que le chien, ben, c'est pas un objet, et il y aura peut-être effectivement une évolution au niveau des mentalités.
La SPA ne peut pas s'occuper de tout. Il faut que des gens comme moi ou d'autres, s'occupent également et par eux-mêmes de problèmes causés par les animaux. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que j'ai toujours fait. C'est la raison pour laquelle, pour décharger la SPA, je fais beaucoup de choses. Et pour vous donner un exemple, j'allais très souvent et je vais encore très souvent au Hautwald, que vous connaissez peut-être, qui est quand même à pas mal de kilomètres de Strasbourg. Et vous savez, vous avez beaucoup d'amis qui se disent des amis des animaux, et leur amour des animaux se traduit par le fait qu'ils vous disent un jour « Oh, vous savez, vous qui aimez les animaux, il y a un paysan qui est mort là-bas, il avait 6 ou 7 chats, maintenant plus personne s'en occupe. » Eux, ils pensent avoir fait leur devoir. Moi, je cours là-bas, effectivement, je vois ces chats qui étaient dans une maison abandonnée, et pendant 10 ans, je suis allée là-bas tous les dimanches, c'est-à-dire le jour où je ne travaillais pas, pour amener de la nourriture que le fils de ce paysan voulait bien leur donner, et je l'en remercie encore. J'amenais des boîtes et des gâteries, un peu de viande fraîche, et je me suis occupée de ces animaux jusqu'au dernier jour de leur vie, à 2 endroits au Hautwald. Donc pendant 10 ans, je me suis précipitée par tous les temps, même en hiver, quand il y avait de la neige et que les routes étaient mauvaises. Je suis allée là-bas et je me suis occupée de ces chats. Et il y en a 3, lorsque les autres étaient morts. Il y en a un qui a été gardé par une amie, celle qui garde mon chat quand je pars en vacances, qu'il a gardé jusqu'au dernier jour de sa vie, et 2 autres aussi qui ont été gardés par une dame qui ne s'occupe que de vieux chats qui sont à personne et que j'avais réussi à attraper. Et voilà, et jusqu'au dernier jour de leur vie, ils ont été soignés. Et ça, c'est une chose qui me tient à cœur. J'aime les animaux. Vous avez des gens qui n'en ressentent pas le besoin. Souvent, ce sont des gens aussi qui ne connaissent pas les animaux. Mon père, par exemple, ne connaissait pas les chats. Il n'avait jamais eu affaire à un chat. Et un jour, j'ai adopté un chaton. Et malheureusement, ce chaton était voué à la mort. Il est mort lorsqu'il avait 1 an. Et j'ai entendu un jour mon père dire à son meilleur ami, « Tu peux pas savoir comme ce chat me manque et comme je l'ai aimé. » Eh bien, j'ai adopté un autre chaton, et ça prouve tout simplement que beaucoup de gens n'aiment peut-être pas les animaux parce qu'ils ne les connaissent pas. Je ne crois pas, quand on a du cœur, qu'on peut vraiment résister aux animaux. Et je suis toujours étonnée d'entendre à la radio ou à la télé des gens qui sont totalement insensibles au malheur des animaux. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas des gens qui puissent faire du mal à un animal ou tuer un animal. C'est quelque chose qui m'échappe totalement.
C'était SPA, SOS Animaux, un documentaire de Richard Nicolini. Merci à Alfred Gephardt, président de la SPA, à Christine, Fabienne, Aurélie, salariée de la SPA, à Mathilde Cavaine, vétérinaire, à Virginie, bénévole, Marguerite et André, donateurs, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner.